Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le couple, quelle histoire, bien assorti ou pas, en crise ou épanoui, heureux dans sa sexualité ou pas. À lire les journaux, notamment People, on peut avoir l'impression que le couple est une affaire d'abord sentimentale ou seulement humaine, et ce, même chez les chrétiens. Depuis Jean-Paul II et sa théologie du corps, le regard d'une partie de ces derniers a évolué, découvrant le projet de Dieu sur le couple, un regard d'en haut, si l'on peut dire. En France, des théologiens, des philosophes, mais aussi des couples s'attellent à faire connaître cette pensée prophétique des couples comme Maud et Alex Loriot-Prévost. Voilà pour cette émission Vivante Église. Ce matin, je reçois donc Maud et Alex Loriot-Prévost. Donc, vous êtes délégués à la nouvelle évangélisation pour le diocèse d'Avignon. Vous avez été autrefois délégués à la pastorale conjugale et familiale. Et vous êtes donc les auteurs, entre autres, d'un certain nombre d'ouvrages, dont Évangéliser le mariage, le kérigme conjugal, paru aux éditions Salvator. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous, pour ceux qui vous connaissent, ils souriront de vous retrouver, puisque vous avez aussi donc animé des émissions de radio, Évangile pour le couple, qui ont été diffusées entre autres à cette antenne. Voilà l'émission que vous avez animée, donc, qui vous ont été commandées par Radio Notre-Dame en 2008 et 2009, et qui ont été diffusées via le réseau COFRAC auquel nous appartenons. Alors, pour commencer cette émission, je voulais tout simplement vous, peut-être pour faire écho à cette introduction, cette courte introduction, reprendre un passage de votre livre où, c'est d'ailleurs moi qui vous ai un peu copié, plagié, vous dites un moment que Jean-Paul II, pour faire court, hein, évidemment, en développant cette théologie du mariage, a aidé d'une certaine manière à entrer dans un autre point de vue sur le mariage, qui est un point de vue à partir du point de vue de Dieu, à partir de ce que Dieu lui-même en dit, et donc de la finalité qu'il leur assigne dès les origines et de manière constante dans l'histoire. Bref, votre livre, qui est grand public mais un peu trapu, part de ce point de vue d'en haut. Alors, dites-nous, peut-être pour commencer, ce parti pris. Pourquoi ce parti pris,
ben, Alex Loriot-Prévost. C'est effectivement, c'est un propos qui, beaucoup d'observateurs, effectivement, ont mis en évidence combien Jean-Paul II a essayé de partir, de démontrer quel était le dessein, quel était l'objectif de Dieu quand il a créé l'humanité. Et il a créé l'humanité, il a créé le couple pour son bonheur, pour une grande intensité d'amour, de joie, de communion, quand on voit ce qui est effectivement exprimé de la joie d'Adam et Ève se rencontrant. C'est vraiment une exultation, c'est pas simplement qu'Adam et Ève sont bien ensemble, c'est le cri de joie qui part vraiment des profondeurs d'Adam. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà, et puis ce qui est dit aussi en Genèse 1, quand on dit que le couple est à l'image de Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu, c'est la communion trinitaire, c'est un amour extrêmement intense. Quand on lit Jean chapitre 14 et 17, on voit vraiment tout l'amour de Jésus avec son Père. Et bien, nous sommes, notre génétique théologique, elle est ce bonheur, elle est cette joie. Et donc, le dessein de Dieu pour nous, c'est cette exultation de l'homme avec la femme. Et donc, c'est le projet de Dieu. Et donc, c'est le projet éternel de Dieu, parce qu'il n'y a pas deux génétiques humaines, il n'y en a qu'une. Même si après, il y a eu la chute et quelques petits problèmes sur la ligne.
Alors, on va y revenir, mais en fait, donc, ma question était davantage ou tout autant que c'est important de partir de ce regard, en fait, parce que...
Pour comprendre ce qu'on est... Vous savez, pour comprendre une machine, etc., il vaut mieux savoir que ce qu'a dit le fabricant. Parce que c'est lui qui l'a fait. Donc, c'est lui qui en connaît le mode d'emploi. Donc, vaut mieux le connaître. Et donc, voilà. Quel était, pour faire un frigidaire, quelle était l'intention de Walpole ou de Brandt, ou voilà. Et bien là, pour le couple, c'est pareil. Demandons à l'auteur quel était son dessein.
Oui, Maud Loriot-Prévost.
C'est assez nouveau d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le souligne dans ce livre, c'est que effectivement jusqu'à présent dans la théologie du mariage, on partait de la réalité du mariage et puis on essayait de l'élever. Alors que là, Jean-Paul II, il a dit, attends, on va d'abord commencer par contempler quel est l'objectif et le dessein de Dieu et à partir de là, en tirer des conséquences. Et c'est ça qui est nouveau en fait et qui fait que cette théologie de Jean-Paul II est si renouvelle complètement la théologie du mariage, alors que pendant des siècles et des siècles, on n'a fait que des commentaires relativement sobres sur le mariage, on va dire.
Donc cette théologie de Jean-Paul II, donc vous en parlez, alors elle a été vulgarisée en France ces dernières années, mais elle n'est pas connue évidemment de tout le monde, ni de tous nos auditeurs, cela va sans dire. Alors je vous propose dans cette première partie, quelque part, en fait, qu'on essaye de faire un peu un digest. Alors c'est ce que vous faites dans votre livre d'une certaine manière, même si ce n'est pas son objectif. La première chose, alors je n'ai pas retrouvé le passage, mais c'est quelque chose dont vous parlez, de l'amour des origines, puisque donc si on contemple le projet de Dieu sur le mariage, il faut partir donc du récit de la Genèse, et j'avais souvenir que Jean-Paul II disait dans sa théologie du corps qu'il y a comme le lointain écho dans le cœur de tout homme et de toute femme de cet amour des origines. Alors qu'est-ce que c'est que cet amour des origines? Comment vous expliqueriez ça à tout à chacun?
Bien, disons que voilà, Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre une exultation quotidienne, permanente, une joie de la rencontre, de l'amour et de l'intensité absolue de l'amour. Donc, cette identité des origines, nous la portons en nous comme un désir, je dirais, de rejoindre ce pour quoi nous sommes faits. Et donc, Jean-Paul II, bien plus tard, quand il parle de la question de la sexualité qui est le lieu même de l'expression d'une seule chair et donc de l'expression de l'amour le plus complet, le plus intense qui nous soit donné de vivre, puisqu'on implique tout notre être, notre corps, notre esprit, notre âme, notre cœur, tout est impliqué dans cette relation-là. Eh bien, Jean-Paul II dit que toute personne qui s'unit sexuellement avec une autre recherche inconsciemment cette nostalgie des origines, c'est-à-dire ce pourquoi il a été fait. Donc une communion d'amour absolument magnifique et intense que nous portons en nous.
Parce que donc, ça aurait été le cas, d'une certaine manière, du premier homme et de la première femme, c'est ça, avant la chute, c'est en tout cas ce que
exactement
dit l'Église.
Exactement. C'est que Adam et Ève, quand Adam s'était crié « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair », Jean-Paul II dit ces quatre petits mots-là, en fait, sont déployés dans le Cantique des Cantiques. Donc, si on veut voir l'intensité d'amour...
Autre entre passage Adam, de la Bible qui dit...
Voilà. Le Cantique des Cantiques, c'est donc un poème érotique et spirituel, bien sûr, mais d'abord érotique, qui raconte l'amour de deux amants. Et donc, Jean-Paul II nous dit, ces petits mots-là sont déployés dans ce Cantique des Cantiques. Et si on veut comprendre l'intensité d'amour de Adam et Ève à la Genèse, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour nous aimer, eh bien, lisez le Cantique des Cantiques, qui est un magnifique poème d'amour, où en fait, le bien-aimé et la bien-aimée se cherchent, se désirent et se retrouvent dans un bonheur inouï. C'est ça, je dirais, notre programme génétique.
Oui, d'ailleurs, il a des formules magnifiques, Jean-Paul II. Il dit, le Cantique des Cantiques développe toutes les harmoniques et les couleurs de ce cri, de ces quatre ou cinq mots de Genèse 2:27, je crois, où voici l'os de mes os, la chair de ma chair, et bien il y a le déploiement de toutes les couleurs de ce cri d'Adam dans le Cantique des Cantiques. Et on en voit toutes les harmoniques. Et donc effectivement, qu'on soit homme, femme, croyant ou incroyant, la joie, l'exultation des deux amants du Cantique des Cantiques, bah, je veux dire, ça rejoint tout homme, toute femme, disant mais moi je veux vivre ça, je veux pas que ça vive simplement une nuit de noces, je veux que ça dure toute la vie. Donc ça inscrit véritablement, je dirais, la révélation dans le désir profond de l'homme, et que le dessein originel de Dieu rejoint l'aspiration fondamentale de l'homme. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est là où on prend notre analogie sur la génétique. On prend souvent comme image un poisson. Un poisson, il est fait pour vivre dans l'eau. Si jamais il dit non, moi je suis libre, je vais vivre dans l'air. Eh bien, tant qu'il va vivre dans l'air comme ça, il est libre, mais il va être mal. Par contre, il va être bien le jour où il va revenir dans l'eau. Et il en est de même pour les hommes et les femmes. Si nous rentrons vraiment dans le dessein originel de Dieu sur l'homme, sur la sexualité, alors véritablement à ce moment-là, nous sommes vraiment heureux. Et c'est pour cela, d'où l'importance pour les hommes et les femmes qui sont éloignés de Dieu, de reconnaître le dessein de Dieu. Et à ce moment-là, quand on rentre dans ce dessein, eh bien, vous savez, on est comme une pièce de puzzle qui trouve sa bonne place, et on est dans l'unité, je dirais, par rapport à l'ensemble du puzzle. Alors que si on essaie de se mettre dans une place qui n'est pas la bonne, eh bien, ça crisse de tous les côtés et on n'est pas bien.
Alors, on va y revenir évidemment, hein, mais toujours est-il que si on continue à déployer la pensée dans ce digest un peu de Jean-Paul II, le discours de l'Église, en tout cas la foi de l'Église, c'est de croire donc qu'il y a après cet amour des origines, en fait, il y a donc la réalité de la chute. Alors bon, on va pas refaire évidemment ce qu'est la chute, parce que nos auditeurs en sont peut-être familiers, et puis on fait des émissions là-dessus. Qu'est-ce que cette chute a comme conséquence sur la vie de couple. Alors, je vous citerai, entre autres, page 61, vous dites la chose suivante. L'expérience de la chute a plongé le couple dans une souffrance profonde et très intime au niveau personnel et conjugal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, et qu'est-ce que Jean-Paul II veut dire par là, Maud Loriot-Prévost?
Bien, on va dire que la chute, c'est la grande catastrophe dans toutes les dimensions relationnelles de l'être, et en particulier dans la dimension avec son conjoint. Et donc, on va expérimenter, en particulier dans cette relation-là, mais dans toutes les autres relations, la blessure du péché, la blessure de tout ce qui a été troublé et perverti par cette grande catastrophe de la chute. Et donc, ça veut dire que déjà avec mon corps, je vais avoir une difficulté pour aimer mon corps, pour dire avec vérité ce que je ressens par mon corps. Donc mon corps peut mentir, je peux dire des choses avec mes gestes que je ne dis pas avec mon cœur, et dans l'autre sens. Et donc dans la relation conjugale, évidemment, c'est terriblement blessant, cette situation-là. Parce que je peux, par exemple, donner mon corps en disant à l'autre « je t'aime », alors qu'intérieurement, je n'en suis pas là, ou je n'avais pas envie de le vivre, ou je ne me donne pas réellement. Donc je peux jouer la comédie. Et puis aussi, je vais expérimenter la difficulté de sentir l'amour de l'autre. Je ne me sens pas aimée et je n'arrive pas à aimer. Donc je vais dans la relation conjugale, le lieu où j'ai choisi l'autre, où j'ai envie de l'aimer, où j'ai envie de vivre un bonheur incroyable, je vais expérimenter que mes mots d'amour, ma façon d'être, peuvent blesser l'autre, peuvent l'atteindre, peuvent l'humilier, peuvent... être incompris.
Et plus que ça, vous dites parfois, moi-même, en fait, ne pas comprendre, en fait, l'amour qui m'est adressé.
Voilà, et puis j'expérimente dans la relation conjugale, particulièrement, mais dans toutes mes relations, cette fameuse phrase de saint Paul, le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le commets. Et donc c'est extrêmement douloureux, donc l'homme se trouve dans une espèce d'incompréhension. Voilà, je veux donner ma vie à l'autre, je veux être dans le bonheur, et on n'arrête pas de s'accrocher, on n'arrête pas de se faire mal, on n'arrête pas de... Enfin, il y a des incompréhensions entre nous.
Les frustrations,
j'attends ça de lui, il ne me le donne pas. Moi, j'essaie de lui donner, il ne comprend pas. Il trouve que je suis sur son dos, que je le harcèle, alors que je veux juste lui dire que je l'aime. Enfin, voilà, la vie est faite d'incompréhension totale. Et cette douleur-là fait que beaucoup de couples en arrivent à la conclusion que c'est juste impossible de poursuivre, quoi, que c'est trop douloureux. Et donc c'est là où justement cette catastrophe-là...
C'est-à-dire qu'on fait face à des difficultés que vous venez de décrire, parce que quel couple ne fait pas face à ces difficultés, mais plus profondément, que quelque part, il y a comme le désir très profond que vous avez exprimé au début, qui est mis face à l'impossibilité de sa réalisation. Et du coup, on se décourage, c'est ça?
C'est ce décalage qui crée énormément de souffrance conjugale, existentielle et fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration très profonde. En plus, on s'est donné les moyens de se choisir librement. Et souvent, d'ailleurs, on a cohabité un certain nombre d'années avant de se marier, etc. Donc, entre guillemets, on a pris toutes les assurances pour que ça marche. Et on fait l'expérience que ça a beaucoup de difficultés pour marcher. Et il y a un décalage entre nos aspirations et notre ressenti. Non seulement c'est parfois fade, mais en plus c'est éprouvant. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples à partir des premières années, des premiers temps d'euphorie amoureuse, où le feu d'amour coule à flot, si je peux dire. Il y a vraiment un décalage, et souvent éprouvant, et c'est souvent les temps après 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans ou 15 ans de vie de mariage, où vraiment il y a une très grande frustration. Et c'est véritablement là où la révélation chrétienne, peut-être qu'on en parlera plus tard, est vraiment peut être un apport extraordinaire, parce que justement peut permettre de mieux saisir d'où on vient, la difficulté qui est la nôtre, qui est notre péché, qui nous fait vivre ce décalage, et comment Jésus peut nous aider vraiment à dépasser, à comprendre l'épreuve que nous vivons, la dépasser, et justement construire cette exultation, aller la chercher avec la grâce de Dieu.
Avec la grâce de Dieu et pas avec la force du poignet, justement. Parce que c'est souvent l'image qu'on a d'une construction conjugale. Peut-être avant qu'on fasse une première pause musicale, si on file la métaphore donc de ce résumé de la pensée de Jean-Paul II, le souvenir que j'en ai, et vous en parlez aussi dans votre ouvrage, c'est que Dieu, ne se reprenant jamais, mais faisant toujours toutes choses nouvelles et plus belles et plus grandes, justement, fait une nouvelle promesse d'une certaine manière au couple aujourd'hui. C'est le fond de votre ouvrage, et ce que vous déployez, et ce que déploie Jean-Paul II. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble cette nouvelle promesse? C'est-à-dire, Jean-Paul II dit, je crois, dans sa théologie du corps, qu'il faut faire le deuil, en fait, quelque part, de cette nostalgie, en fait, c'est le lointain écho, en fait, ce que vous avez décrit au début, et rentrer dans un nouveau projet, mais qui n'est pas moins grand. Alors, Maud Loriot-Prévost, à quoi ressemblera ce projet avant qu'on fasse une première pause et qu'on le développe plus tard dans cette émission ?
Voilà, alors en fait Jean-Paul II nous dit que grâce au salut du Christ, nous sommes réintroduits dans la grâce originelle, certes, donc c'est-à-dire que nous devenons à nouveau capables de nous aimer, mais de nous aimer dans une, je dirais, une vie transformée par la présence du Christ, qui va prendre en charge sur lui une partie de notre incapacité et qui va nous rendre capables de nous aimer et de nous aimer encore mieux et encore plus grand. De fait. Mais l'idée, c'est de dire que, effectivement, ce salut que le Christ nous propose, c'est pour nous permettre d'accéder à cette bénédiction des origines qui était, dont la porte était fermée pour nous, définitivement, à cause de cette chute et de cette catastrophe.
Donc il y a un deuil à faire, quelque part, en fait. Est-ce qu'il faut faire le deuil de ce que vous avez décrit au début, en fait, et rentrer dans quelque chose de nouveau ?
Non, on n'en fait pas le deuil, on le retrouve, mais autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est dans la vie, ça fait partie de notre condition humaine, on peut pas faire reset. Tu repars en arrière et puis tu fais comme si de rien n'était. Non. Mais par contre, la qualité de relation auquel nous aspirons, nous pouvons la trouver, mais après avoir traversé les épreuves justement de la conversion, de la guérison, de tout un tas de je dirais un labeur personnel, un labeur de la grâce, qui va nous permettre d'accéder à ça. Donc de fait, quelque part, c'est pas tout à fait la même chose que l'innocence des premiers temps, parce qu'il va falloir passer par ce temps de purification, de guérison, de libération, de salut, qui va nous permettre progressivement de goûter à nouveau à ce bonheur.
Alex Loriot-Prévost, sur cet avant et après, ou sur ce nouveau, ou ce projet renouvelé de Dieu sur le couple.
Jean-Paul II a fait 4 ans de catéchèse. Sa première année de catéchèse a été un commentaire de 12 versets. Matthieu 19, versets 1 à 12. Et notamment, c'est toute la question sur la controverse autour du divorce. Et Jésus, c'est là où Jésus rappelle, mais pour comprendre le mariage, il faut revenir aux origines. Donc la compréhension du mariage, c'est le dessein de Dieu aux origines, Genèse 1, Genèse 2. Et donc, Jésus le rappelle, et quand les apôtres interpellent Jésus, ils me disent, mais attends, si jamais c'est ça, vaut mieux même pas se marier. Donc, les apôtres, qui étaient tous mariés, sauf Jean, je dirais, voient le décalage entre ce que Jésus annonce, ce que Jésus dit, pour comprendre le mariage, c'est comme ça qu'il faut le vivre, la réalité, ils la connaissent, les apôtres, ils ont dit, mais c'est pas possible, vaut mieux même pas se marier. Et Jésus leur dit de manière très, ne les rassure pas, mais il leur dit, effectivement, vous avez raison. Sauf si jamais cela vous est donné. Donc, et ce don, et c'est tout le commentaire de Jean-Paul II pendant un an, ce don, c'est le salut du Christ. C'est le Christ lui-même et qui se réalise par son Esprit Saint. D'où l'importance pour les couples d'accueillir le Christ et son salut, d'accueillir l'Esprit Saint pour permettre de vivre ce dessein originel, éternel de Dieu dans le couple. Mais c'est par le Christ que nous y avons accès. Et je dirais qu'on le veuille ou non, de toute façon, tout couple, nous aspirons à vivre ce dessein, cette génétique qui est en nous. C'est pour ça qu'on a autant de soif d'amour. Pourtant, c'est pour ça nous prend toute la tête et tout le cœur. C'est parce que c'est inscrit profondément en nous. Mais Jésus, c'est Jésus et l'Esprit Saint qui nous permet d'y accéder. C'est pour ça que c'est une fantastique bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est si attirant. C'est pour ça que le grand ami de Jean-Paul II, Cardinal Scola, disait quand ça sera compris par l'Église et par les pasteurs et par les chrétiens, ça sera une bombe pastorale et une bombe missionnaire. Parce que c'est hyper attractif. C'est donner les moyens aux hommes et aux femmes de ce temps de réaliser ce à quoi ils aspirent de plus essentiel. Donc on n'est même pas en train de parler des cathos, des pas cathos, des chrétiens ou des pas chrétiens. On est en train de parler aux hommes et aux femmes de ce temps, de dire, tu veux réaliser ce à quoi tu aspires le plus profondément, consciemment ou inconsciemment. Eh bien, accueille le Christ, accueille la vie dans l'esprit, et à ce moment-là, tu pourras réaliser dans ton couple ce à quoi tu aspires.
Alors, on va faire une première pause musicale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Évangéliser le mariage, le kérigme conjugal » paru aux éditions Salvator.
Présence.
La radio pour aimer.
Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor.
tristeza, camarada. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer, seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camarada. Chikandanguin, 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 chikandanguin.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, le mariage chrétien sommet de l'amour, rien que ça, donc avec Alex et Maud Loriot-Prévost. Je les représente pour ceux qui nous prendraient en cours de route, donc ils sont délégués à la nouvelle évangélisation pour le diocèse d'Avignon, ancien délégué diocésain à la pastorale conjugale pour ce même diocèse, et donc auteur entre autres d'un ouvrage, mais on donnera aussi le titre d'un autre ouvrage, enfin je vais les donner maintenant, Évangéliser le mariage, le kérigme conjugal, qui s'adresse, me disent-ils, peut-être davantage aux gens en responsabilité et aux pasteurs, et Jésus sauve ton couple, qui est peut-être plus grand public, les deux, aux éditions Salvator. Je redonnerai toutes les informations à la fin de cette émission. Alors après ce premier dégagement très théologique, je vous proposerai dans cette deuxième partie de nous partager peut-être davantage votre expérience de terrain et d'essayer de voir avec vous et d'aider les auditeurs à comprendre comment Dieu sauve en fait ce projet initial ou ce désir qu'il porte tout au fond de son cœur. Je commencerai en citant un passage de votre ouvrage où vous parlez de la passion et de ses ravages. Alors à le lire, on a l'impression que vous avez été vous-même concerné, ou en tout cas que vous avez approché ça de près via probablement les responsabilités qui ont été les vôtres. Cette passion, en fait, elle est présente en long, en large et en travers, évidemment, dans les médias. Et je dis ça, c'est pas forcément une critique, dans les films et autres. Vous dites souvent que cette passion, elle peut devenir irrationnelle, elle consume. Comment vous la décririez, d'une certaine manière, pour faire écho à ce que vous dites dans ce livre? Et on sent que derrière, en fait, vous ne jetez pas dessus un regard négatif. Elle dit, justement, comme en négatif, le désir très profond qu'il y a dans le cœur de tout homme. Qui commence? Alex Loriot-Prévost.
Ce qu'il y a, c'est que, effectivement, si on essaie de considérer la question passionnelle, les questions des adultères, de la pornographie, de tout ce qu'il peut y avoir de sentiments passionnels, et qu'on perçoit, croyant ou incroyant, comme pas juste, et même pouvant faire des ravages, et si on pas d'avoir un jugement moral dessus, même si bien sûr on peut l'avoir, mais essayer d'avoir un diagnostic existentiel. C'est justement parce que est inscrit en nous, je dirais génétiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, ce désir de ce don, de se donner, etc., à l'autre dans la joie, dans l'amour, dans la communion conjugale, qui se traduit par le une seule chair, comme dit la Genèse. Quand ce une seule chair est déconnectée de sa racine qui est Dieu, on est comme la sexualité perd son sens, et donc elle perd le fruit qui rassasie notre cœur. Et donc quand l'homme ou la femme est déconnecté de la racine qui est Dieu, il est comme à courir derrière, prenons encore une image, comme si on essayait d'attraper un savon qui est mouillé, et plus on court derrière, on essaie de l'attraper, plus il nous échappe. Et donc, il y a une fébrilité du cœur. Et donc, effectivement, pour beaucoup de nos cœurs, de cœurs d'hommes et de femmes, qui effectivement sont déconnectés du sens de cette sexualité, la sexualité ne rassasie pas le cœur. Et donc, on est à courir derrière. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'avidité, je dirais, adultérine, passionnelle, où effectivement on essaye de... Pourquoi à un moment on entend toujours parler du Kama Sutra, etc. Parce qu'on croit que allez, la position 72-15, ça va être la meilleure qui va vraiment résoudre la passion de notre cœur et va rassasier.
On sait qu'il y a même des sites internet aujourd'hui, comme Glieden, hein, pardon d'en faire sa publicité, mais qui sont des sites qui ont pignon sur rue, qui ont des taux de croissance probablement assez importants, ou qui est une invitation à l'adultère.
Je crois qu'il y a 1 million ou 2 millions de votes inscrits à Glieden. Voilà. Mais ce n'est quoi ? Ce n'est que. C'est terrible, mais reprenons la Samaritaine. Ce n'est pas un problème que d'aujourd'hui. La Samaritaine, dans l'évangile, elle s'est fait 5 mecs, elle en est au 6e. Et elle n'a toujours pas son cœur rassasié. Et elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif.
Ça veut dire qu'elle avait aussi une grande soif d'amour. Alors.
Elle avait une grande soif d'amour. Et je veux dire, elle a fait sûrement 5 mecs par le face nord, face sud, etc. Et elle en a au 6e, qui ne résout pas son... Voilà. Donc la question pour nous, si nous voulons vraiment que notre sexualité puisse vraiment nous étancher notre soif de donner de l'amour... et de recevoir de l'amour, il faut que cette sexualité soit connectée à Dieu. Si elle est déconnectée, et ben à ce moment-là, on tombe dans l'avidité, dans le péché, dans le passionnel, etc., etc., qui ne rassasie pas.
Baudelaire Prévost, pardon, je cite juste un passage de votre ouvrage pour alimenter la conversation. Fréquemment, cet état déclenche, donc c'est la passion, une forme d'angoisse et de malaise intérieur que l'homme cherche à apaiser. L'homme dont la volonté est tendue à satisfaire les sens ne trouve aucune quiétude, ne se retrouve pas lui-même, au contraire, il se consume.
Oui, c'est un texte, un passage que nous avons trouvé dans justement la catéchèse de Jean-Paul II qui est extrêmement précise. En fait, on a cité ce passage et on a travaillé dessus parce que souvent, on entend dans la conversation et dans les couples qu'on reçoit, souvent certains nous disent « mais voilà, je suis tombée amoureuse », comme si c'était impossible de faire autre chose que de succomber à cette relation, juste parce que je suis tombée amoureuse, même si c'est quelqu'un qui n'est pas ma femme ou mon mari, c'est irrésistible. Et en fait, il y a un travail à faire aujourd'hui. Et je pense que pour les jeunes, c'est la même question quand ils nous demandent « Est-ce que j'ai choisi le bon ? Est-ce que c'est pas le bon ?» etc. C'est le travail justement de faire passer l'amour au crible aussi de la raison et de qu'est-ce que c'est un amour ? Qu'est-ce que j'en fais ? J'ai des sentiments pour quelqu'un, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que automatiquement avoir des sentiments pour quelqu'un, ça veut dire qu'on peut construire un projet de vie, un projet qui va vers la vie ? Eh bien non. On peut tomber amoureux.
Même marié,
même prêtre, même consacré, même tout ce qu'on veut. On peut tomber amoureux plusieurs fois dans sa vie de personnes qu'on rencontre. Mais est-ce que pour autant, cet amour doit mener à un projet qui me fait tout abandonner, tout changer et repartir sur une autre perspective ? Peut-être, mais ça se discerne. Et le problème aujourd'hui, c'est que sous prétexte qu'on a des sentiments pour quelqu'un, eh bien, c'est impérieux. On doit absolument y succomber, et c'est plus fort que tout. Et avec ça, on démolit des vies, on démolit des enfants, on démolit des perspectives conjugales qui mettent si longtemps à se construire et un instant à se détruire. Et Jean-Paul II, on a trouvé, avait une vision très claire de cette dérive de la passion qui fait perdre toute logique, tout repère, et qui fait simplement qu'on est mené par son sentiment. Or, les sentiments, s'ils sont très bons, certes, ils sont très beaux, très, très forts à vivre et tout, mais on ne peut pas vivre ballotté par ses sentiments. Il y a un moment, il faut poser des actes, et poser des actes qui nous engagent et qui donnent une stabilité, qui nous permettent ensuite de rajouter, de nourrir les sentiments. Mais on ne peut pas être mené en permanence par ses émotions.
Voilà, en tout cas, c'est une manière de signifier, hein, pour ceux qui en douteraient parmi nos auditeurs, que l'Église, comment dire, est experte en humanité d'une certaine manière, parce qu'un pape qui décrit comme ça la passion de l'intérieur, on sent que, évidemment, il a dû discuter avec plus d'un couple.
C'est là où c'est aussi très important, c'est qu'il ausculte le sentiment profond de l'homme. Et combien de fois qu'on discute avec des jeunes ou avec des moins jeunes sur la question de la pornographie, de la masturbation, des comportements adultérins, etc. Quand on parle vraiment à cœur de l'homme, c'est pas une question de foi ou de pas foi. Cette vérité de reconnaître le côté nauséabond de toutes ces pratiques, il est, quand les hommes sont en vérité, quand les hommes ne tombent pas dans l'idéologie ou dans la justification, ils savent que c'est vrai. Et ils savent que c'est pas bon pour l'homme, que ces passions, effectivement, qu'ont le feu passionnel, je dirais, consume le cœur, dans ce que j'ai évoqué, ils savent que ce n'est pas bon. Et donc, les hommes, les cœurs des hommes et des femmes cherchent la solution. Comment peut-on guérir de ces passions mauvaises ? Alors que d'autres, justement, ils savent très bien qu'à un moment, il y a des passions, il y a des amours, il y a des dons qui sont bons, qui sont bénis. Même pour des non-croyants, ils connaissent ce qui est béni et pas béni. Si vraiment on a un dialogue en vérité. Et c'est pour ça que Jean-Paul II, qui est vraiment nous invite, et bien sûr le pape François aussi le fait, etc., c'est que la base de l'évangélisation, du dialogue sur la révélation, c'est un dialogue d'abord existentiel, sur la lecture profonde de ce qui habite nos cœurs, de positif ou de négatif, et nous le savons quand on n'est pas parasité par l'idéologie, etc. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à ce temps de la vérité, et il est bon de lire en vérité ce qui habite le profond de nos cœurs, de nos âmes d'hommes et de femmes.
Alors, parlons maintenant sexualité. Enfin, vous l'avez fait, évidemment, parce que derrière cette passion, on imagine bien qu'il y a, comment dire, il y a toute la sexualité qui est évoquée. Vous décrivez dans votre ouvrage, et toujours en écho donc au pape Jean-Paul II, pardon, c'est pas pour vous faire de l'ombre, mais quand même, vous vous nourrissez aussi à cette pensée. Vous reprenez ou vous redécrivez, vous redites à quoi ressemble d'une certaine manière un peu une sexualité sauvée. Alors, pour vous lancer là-dessus, c'est un autre passage dans votre ouvrage où vous dites la chose suivante, pour introduire aussi au mystère du mariage chrétien et puis à sa grandeur, et pour faire écho donc au titre de l'émission, le mariage chrétien sommet de l'amour, vous dites l'union des époux apaise cette solitude, la solitude qui serait au cœur de tout homme, répond au désir de Dieu de lui faire une aide qui lui soit assortie. Comme si dans le mariage chrétien, probablement quelque chose qui est difficilement entendable par le grand public, hein, mais il y avait comme une paix des profondeurs qui répondait à deux soifs, celle d'être apaisé dans la solitude existentielle de chacun, et celle de trouver comme un complément qui étanche cette soif. Alors, est-ce que vous pourriez nous introduire à nous faire de la pub pour le mariage chrétien, Théo ? Et pourquoi c'est spécifique au mariage chrétien ? Parce qu'on peut se dire aussi que c'est quelque chose qu'on peut vivre en dehors du mariage chrétien.
Oui, bien sûr. Le mariage chrétien n'est pas dénué de toute humanité. Au contraire, il se greffe sur l'humanité. Et je veux dire, la foi, c'est ce qui déploie l'humanité dans sa totalité. Donc, l'homme et la femme ont été créés au départ par Dieu comme un vis-à-vis, un face-à-face, si on voulait traduire exactement le terme qui est employé de la Genèse. Donc, ça veut dire que hommes et femmes vont se regarder en être humain qui se complète, et donc le pôle masculin et le pôle féminin se complètent pour créer une humanité complète, si je puis dire. Et donc c'est ça la logique de Dieu, c'est de faire que la complétude de l'humanité soit donnée dans l'amour d'un homme et d'une femme. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai bonheur pour l'homme et pour la femme de le découvrir, mais ça passe évidemment par une différence absolument impossible à résoudre, enfin à résoudre dans le sens à éliminer. L'homme reste homme, la femme reste femme, et donc ça veut dire que dans toutes nos fibres, dans notre façon de penser, dans notre façon de réagir, dans notre cerveau, dans notre logique, on est différent. Donc c'est unir des contraires. Et ça, c'est toujours le signe de Dieu. Dieu unit, rassemble dans l'amour des contraires, alors que les diviseurs cherchent toujours à les séparer. Donc partout où il y a des contraires assemblés dans l'amour, dans une communion totale, eh bien, c'est aussi, si je peux dire quelque part, manifestation du visage de Dieu, qui est la communion des différences. Donc à chaque fois qu'un homme et une femme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus étranger qu'un homme et une femme, pas besoin d'avoir fait Mars et Vénus et tous ces trucs-là pour comprendre qu'entre un petit garçon et une petite fille, il y a un univers de différences. Et dans un couple, eh bien, on se heurte tout le temps à cet univers de différences. Mais si on sait le vivre comme une complémentarité magnifique, alors on n'est que dans l'émerveillement. Mais comment est-ce que tu peux penser comme ça ? Mais jamais ça me serait venu à l'idée. Moi, je ne pense pas comme ça.
Mais le mariage chrétien dans tout ça, enfin, qu'est-ce que le mariage vient de, d'ajouter, pardon, hein, c'est pas pour faire de la publicité, mais
non, mais
quelle différence ? On peut s'aimer, apprendre à s'aimer dans cette différence, apprendre à vivre cette complémentarité en dehors du mariage chrétien.
Oui, que les hommes et les femmes essayent cela, oui, mais la grande grâce du mariage chrétien, c'est de faire prendre conscience au couple pourquoi il a eu tellement de mal à s'aimer, pourquoi il y a un tel décalage entre ses aspirations profondes et la réalisation. La grande majorité des couples aujourd'hui, des jeunes couples qui se mettent ensemble sérieusement, ne finiront pas leur vie ensemble. C'est dramatique.
Oui,
c'est une situation dramatique.
Je n'ai pas cherché les stats, mais vous voulez dire que ceux qui vivent en...
Ah bah c'est les projections statistiques, INSEE, rapport de l'INSEE 2015, 2016, etc. On voit bien que toutes les projections statistiques montrent qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens qui veulent construire un couple heureux, fidèle, etc. etc. C'est l'aspiration de 80% de nos contemporains. Et bien les statistiques, elles sont quasiment analogiques. 80% ne finiront pas leur vie ensemble. Est-ce que vous croyez que c'est par légèreté? Non. C'est dramatique. Un divorce, c'est toujours dramatique. Et donc, les gens, si jamais ils se séparent...
Un couple sur deux en France, aujourd'hui, c'est ça?
Un couple sur deux. Il y a un... Un
couple
sur trois.
Il y a un divorce pour deux mariages.
Ça, c'est aujourd'hui.
Un divorce pour deux mariages, pardon.
Voilà. Mais en projection, c'est-à-dire ceux qui se mettent sérieusement ensemble aujourd'hui, Pax ou machin, parce qu'il y en a qui ne veulent pas se marier pour X raisons idéologiques, etc. Mais des projets sérieux de mariage, les projections... Ça veut dire que la grande majorité ne finira pas sa vie ensemble. Donc leur projet conjugal, qui est leur projet de vie, toutes les enquêtes aussi d'opinion le montrent qu'à 80%, c'est le projet de vie principal.
Même chez les jeunes. Hein.
Même chez les jeunes, 86% c'est chez les jeunes. 79% chez les plus de 35 ans. Donc ça veut dire que ce à quoi les gens aspirent le plus, c'est un échec généralisé. Donc pour la grande majorité des gens, la question n'est pas s'ils vont divorcer ou pas, c'est quand est-ce qu'ils vont divorcer. À 80%. Donc, c'est une situation dramatique. Donc, le mariage chrétien, c'est quoi? Le mariage chrétien, Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour les parfaits, je suis venu pour les malades. Donc, je suis venu aussi pour les couples malades. Je suis venu apporter le salut, la guérison. Ceux qui désirent réaliser leur mariage, mais qui sont conscients de leur amour, mais qui sont conscients de leur fragilité, qui sont conscients aussi de leur péché, et je vais les aider par mon œuvre de salut à les guérir, à les libérer, à les consoler, à s'aider à se pardonner, etc. Pour que se réalise le dessein, ce à quoi ils aspirent.
Est-ce que vous pouvez prendre des exemples peut-être forts de votre expérience pastorale? Pardon, hein, le temps est court pour développer quelque chose d'aussi important, mais en quoi le mariage chrétien peut venir sauver d'une certaine manière l'amour, à vous entendre?
Bah, écoutez, voilà, on va prendre question sur sexualité et question de la sexualité. Voilà, quand dans le mariage on se dit je me donne à toi pour t'aimer toute la vie, on voit bien que dans la sexualité très souvent, alors c'est souvent un peu les mecs, ils se donnent pas, ils prennent leur femme. Et pour prendre les paroles méa triviales, c'est les femmes qui se font sauter. Et voilà. Et effectivement, beaucoup vivent très douloureusement cette sexualité de la part de leur mari. Et inversement, beaucoup d'hommes sont très frustrés parce que leur femme, leur concède un câlin, mais elles ont souvent mal à la tête et elles ont le mal à se donner. Eh bien, ce travail-là, c'est le constat de beaucoup, je dirais, de frustration et de grande douleur dans l'intimité conjugale de beaucoup de couples. Malgré tout ce qu'on peut parler de la performance de la sexualité.
Mais qu'est-ce que le mariage vient transformer?
Eh bien, le travail, justement, le travail du mariage chrétien vient aider vraiment l'homme et la femme à rentrer dans cette dynamique du don, de don je ne prends pas. Je ne prends pas et aussi je ne concède pas. Et donc c'est tout le travail de la conversion de notre sexualité, de notre amour de la sexualité qui doit se donner sans prendre, mais en se donnant également généreusement. Et on voit bien justement que la conversion de l'un qui ne prend plus mais qui se donne, devient parallèle à celle qui ne concède pas un câlin, mais qui vraiment va se donner généreusement. Et on voit bien combien la croissance de la sexualité, le sommet de la sexualité n'est pas la d'une noce, mais elle est au fil des années où l'un et l'autre apprend la conversion du don. Voilà. Et combien nous avons des témoignages, mais multiples, de ceux qui vraiment ont accueilli l'amour du Seigneur et le don du salut, et qui nous disent, mais attendez, on est mariés depuis 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, etc. Mais jamais on a vécu une sexualité comme ça. Et je peux vous dire que même le summum, c'est d'avoir même des retraités, après 35, 40 ans, 45 ans de vie de mariage, qui nous disent... Mais en accueillant vraiment l'amour du Christ et la révélation du Christ de notre sexualité, on peut vous dire, on ne s'est jamais aimé comme ça.
Maud-Laurie Prévost, peut-être...
Oui, je voudrais donner un autre exemple, par exemple, sur les questions du quitter son père et sa mère, qui est un enjeu majeur pour le couple. Parce que quand Jésus nous dit qu'il faut quitter son père et sa mère pour s'attacher, ça veut dire que si je ne quitte pas papa et maman, j'ai du mal à m'attacher. Donc j'ai du mal à rentrer dans la relation conjugale. J'ai du mal à faire confiance à mon conjoint. Eh bien voilà, nous avons des exemples multiples de couples mis en danger par une présence trop importante ou ingérante, voire d'un parent, d'un grand-parent, d'un beau-parent, enfin peu importe après, mais qui finit par prendre une emprise dans le couple et qui rend impossible la relation conjugale. Eh bien, pour regarder un peu les blessures que nous ont fait nos propres parents et qui se reportent dans notre comportement vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de notre conjoint, eh bien, être capable de quitter son père et sa mère intérieurement, j'entends, hein, il ne s'agit pas de les mettre
parce que même à 10 000 km, on peut ne pas les avoir
quittés. On peut appeler maman tous les jours, même
voilà,
à 10 000 km.
Exactement. Donc, c'est cette logique de prendre une distance juste, hein, d'adulte à adulte, et pas de pas rester le petit enfant de papa et de maman, pour se situer en face de son conjoint et faire des choix qui concernent le couple et qui doivent être pris par le couple, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire humainement. Et il faut vraiment la grâce de Dieu pour leur permettre de comprendre que c'est l'enjeu, c'est vraiment la construction de leur vie de couple, de leur famille. Et à ce moment-là, ils peuvent rentrer dans une vraie relation conjugale qui va porter des fruits, d'ailleurs, jusque dans la sexualité.
On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver peut-être pour une partie un peu plus rapide. Mais il y avait quelques points sur lesquels je voulais vous faire encore réagir. Je rappelle le titre de votre ou vos ouvrages, Évangéliser le mariage, le kérigme conjugal et Jésus sauve ton couple, les deux parus aux éditions Salvator. Cette émission Vivante Église ce matin donc sur le mariage chrétien, sommet de l'amour, toute une promesse, donc avec Alex et Maud Loriot-Prévost. Avec nous en plateau, je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, qu'ils sont délégués à la nouvelle évangélisation pour le diocèse d'Avignon et auteurs d'un certain nombre d'ouvrages, dont, entre autres, Évangéliser le mariage, le kérigme conjugal, paru aux éditions Salvator. Alors, Maud et Loriot-Prévost, pour ceux qui vous connaissent et pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais donc repréciser que vous battez un peu la campagne. Vous êtes quand même en France, dans l'Église de France, un peu une figure de proue de la bonne nouvelle qui accompagne le couple. En tout cas, c'est votre c'est votre mission. C'est l'impression qu'on peut avoir de loin et celle que vous a donnée en partie l'Église. Et vous, dans ce livre, donc Évangéliser le mariage, et vous l'avez dit plusieurs fois dans cette émission, on a l'impression qu'en fait, pour vous, s'il y a une chose aujourd'hui à donner au monde, et donc on va dire le cœur de ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation, serait là-dedans. Alors redites-nous peut-être le fond de votre conviction et de ce qui vous brûle.
D'abord, c'est la conviction. Nous sommes Alex et Maud, nous disions que notre pensée n'a absolument pas d'importance. Nous disions simplement d'être le relais de la pensée de l'Église et de ce que l'Esprit Saint donne aujourd'hui à l'Église. Et Jean-Paul II a été très clair, lui, qui a conçu la nouvelle évangélisation. Il a dit, l'Église domestique, donc la famille, est au cœur de la nouvelle évangélisation. Benoît XVI, lors du synode sur la nouvelle évangélisation, il parlait pas de la famille. À l'homélie, il a dit, le couple est sujet et objet de la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire, c'est un sujet, elle doit être évangélisée, mais il doit être, les couples doivent être également acteurs de l'évangélisation.
Synode auquel vous étiez d'ailleurs.
Synode dans lequel on a été associé, dans lequel qu'on a pas mal relaté, voilà.
Et, on n'était pas présent
physiquement, mais on nous avons relayé tous les jours, effectivement, sur la radio, le synode. Et il y a eu effectivement les synodes après sur la nouvelle évangélisation, où le pape François a appelé en concluant le synode, a dit maintenant j'appelle et je mobilise les couples pour la mission, et le mariage doit être le sujet principal de l'évangélisation. C'est pour ça qu'il a convoqué coup sur coup deux synodes sur le sujet. Donc effectivement, ce sujet, le mariage, l'amour est à évangéliser, et les couples sont les moteurs de l'évangélisation et sont les clés de l'évangélisation. Effectivement, ces deux thèmes qu'on essaye effectivement de relier aujourd'hui.
Aude Loriot-Prévost.
Je dirais aussi que on les relaye pourquoi ? Parce que nous sommes incapables de continuer à voir cette catastrophe qui est autour de nous, qu'on pourrait appeler catastrophe humanitaire, de ces couples qui se défont, de ces enfants perdus, de ces familles qui se recomposent au gré des flots, si je puis dire, émotifs de leurs parents. C'est trop grave. On est devant une espèce de tsunami, une vague, d'une déferlante. Qui aujourd'hui peut dire que son couple tiendra plus que 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Quand on voit, effectivement, les statistiques sont terribles, mais la durée moyenne d'un mariage en Europe, c'est 10 ans. C'est-à-dire que tous les 10 ans, on change de vie de couple. C'est pas possible. Nous, on sait à quel point le Christ a sauvé notre amour. On sait à quel point il nous a apporté pour pouvoir continuer non seulement à nous aimer, mais dans un mariage, un amour qui devient de plus en plus intense, de plus en plus grand, de plus en plus purifié, de plus en plus complice. Et on a envie de proposer ça aux autres. On peut pas regarder tout le monde se casser la figure en disant « Ah ben nous, on s'en sort, on a de la chance ». Donc c'est pour ça que je voudrais dire le moteur de l'évangélisation, et en particulier en ce qui concerne l'amour, c'est est-ce qu'on a le cœur transpercé de voir ces couples qui se cassent la figure à côté de nous ? Est-ce qu'on est bouleversé par ça ? Si oui, est-ce qu'on va continuer à jouer du violon sur le pont du Titanic alors que nous savons où est le canot de sauvetage ? Et quelle est la solution pour les couples ? Donc effectivement, nous ne pouvons pas nous taire. Et si nous, comme d'autres couples, nous passons notre temps effectivement aller rencontrer à la rencontre des jeunes, des couples en difficulté ou des couples qui ont simplement besoin de renouveler leur amour, d'aller plus loin dans l'intensité de leur joie de s'aimer, eh bien c'est parce qu'on en sait le prix et que ça vaut de l'or. Une famille sauvée, c'est des enfants sauvés, c'est des vies sauvées, c'est des amis qui continuent à être là, c'est parfois des métiers sauvés parce que ça déstabilise tout. Le couple, c'est vraiment le cœur de la vie. Et sauver son couple, entretenir son couple, nourrir son couple, c'est toute la vie qui en est irradiée. Et on peut pas me taire ça. Donc nous, parce qu'on le sait, et parce que c'est devenu, je dirais, une urgence de le dire, eh bien effectivement, c'est ça qui déploie notre énergie pour l'évangélisation.
Voilà, c'est clair. Malgré tout, on va quand même parler de deux, trois autres choses encore avant de finir cette émission. Entre autres, j'ai relevé donc dans votre livre, vous parlez à un moment du don total de sa vie à l'autre. Vous avez quelques expressions comme ça qui peut-être peuvent être difficiles à comprendre, mais je me suis dit que c'était en même temps clé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce don total de l'un à l'autre ? Est-ce que c'est de fait une spécificité du mariage chrétien, c'est-à-dire qu'à un moment on décide de se donner radicalement, totalement, et puis petit à petit, on rentre là-dedans. Et est-ce qu'on peut se donner... C'est quoi ce don total
C'est quoi la formule du sacrement de mariage? C'est pas une prière pieuse. C'est une formule qui est issue de 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est l'homme qui dit à la femme et la femme qui dit à l'homme, je me donne à toi. Donc le cœur du mariage, c'est se donner. Et l'expression de se donner, d'ailleurs c'est passé dans le langage courant, c'est la sexualité, c'est de faire de deux corps une seule chair. Et on se donne pas à son patron, on se donne pas à ses enfants, mais on se donne à son conjoint. Et donc toute la symbolique suprême du mariage, c'est le don de l'un à l'autre. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à l'autre. Enfin, nous sommes vraiment donnés l'un à l'autre. Et c'est pour ça que c'est tout un apprentissage. C'est pour ça que la sexualité est la symbolique même du mariage. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir un mariage sans sexualité.
Mais total, ça veut dire quoi? Don total, ça veut dire quoi total? Pourquoi utiliser ce terme radical?
Parce que Jean-Paul II, le Saint Paul le dit très clairement, l'homme n'appartient plus à sa femme, ne s'appartient plus, mais appartient à sa femme, et inversement. Et donc c'est parce que c'est dans cette réciprocité que voilà qu'on est vraiment au service de l'autre. Alors ça ne veut pas dire que on se nie soi-même et qu'on est simplement l'esclave de l'autre, mais ça veut dire que notre projet de vie, c'est de se donner à l'autre et d'aimer l'autre. C'est le programme essentiel de notre vie. Nous avons beaucoup travaillé sur un parcours qui s'appelle le parcours Alpha Couple, qui s'occupe des couples. Et ses fondateurs disent, voilà, il faut bien comprendre que dans le mariage, le premier investissement de sa vie, c'est pas ses enfants, c'est pas son travail, c'est pas la vie sociale, etc. C'est son conjoint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tous les jours je m'occupe de lui. C'est-à-dire c'est voilà le minimum syndical pour la vie conjugale, c'est une heure par jour, une soirée par semaine, une journée par mois. Et comme dit Monseigneur Macaire, avec de Martinique, c'est au moins une semaine de retraite et une semaine sous la couette. Voilà. C'est le premier investissement de notre vie. C'est pourquoi je vis.
Oui, je dirais dans ce don aussi, c'est un engagement qu'on a pris. Donc ça veut dire que quand on, dans le mariage, on dit je me donne à toi, en fait, ce serait plus juste de dire je vais apprendre à me donner à toi tous les jours de ma vie et de plus en plus. Et donc en fait, on doit faire ce travail parce que se donner à l'autre, évidemment, on met de côté, et ça je préfère le dire tout de suite, tout abus de l'un sur l'autre. Hein. Se donner, ça ne veut pas dire se faire phagocyter par l'autre. Si l'autre a des dysfonctionnements psychologiques, il faut s'en protéger. Donc il ne s'agit pas du tout de rentrer dans une espèce d'effacement, comme dit Alex. Je ne m'annihile pas parce que je me donne. Au contraire, je me trouve dans le don. En fait, je me réalise moi-même. Et plus j'aime, et plus je me donne, et plus je deviens femme, et plus il devient homme. Et puis l'un en face de l'autre, on devient ce qu'on est. Donc en fait, le don accomplit notre humanité. Ne l'écrase pas, ne l'enfouit pas, ne l'élimine pas. Et c'est dans ce sens-là que le don, c'est un projet de vie, c'est-à-dire apprendre à se donner, eh bien c'est apprendre progressivement à partager ce qu'on est, à respecter l'autre avec une infinie délicatesse. C'est-à-dire que je ne prends pas l'autre s'il se donne à moi, je le reçois, je n'en fais pas ma chose. Et ça, c'est extrêmement difficile pour un être humain de rentrer dans une relation. Dans les termes chrétiens, on appelle ça la chasteté, c'est-à-dire le respect de l'autre, le respect qui fait que je vais accueillir ce don comme un cadeau et non pas comme quelque chose qui m'est dû. Et ça, c'est une ascèse qui nous fait goûter un amour beaucoup plus grand et beaucoup plus intense que celui qui a l'impression de posséder quelque chose qui ne lui appartient pas. On n'est pas dans ce registre-là. Le rituel, c'est quelque chose d'assez rare, en couple en tout cas, et nous, on a souvent constaté que c'était précieux pour pouvoir aider le couple justement à faire des choix qui soient éclairés et qui soient pour leur propre bonheur.
Voilà, on va laisser finir, madame, cette émission, parce que le temps nous est compté. Merci beaucoup, en tout cas, Alex et Maud Loriot-Prévost, d'être passé par Toulouse. Donc, on va donner l'adresse d'un site internet pour ceux qui voudraient prolonger la conversation avec vous, www.evangilepourlecouple.fr, www.evangilepourlecouple.fr, et donc le titre de deux ouvrages, on va dire, pour les pros, pour faire très court et caricatural, Évangéliser le mariage, le kérigme conjugal aux éditions Salvator, et peut-être pour le grand public, Jésus sauve ton couple, toujours aux éditions Salvator. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.